On a une soirée du Café Colombe, jeudi soir. Il y avait pas mal de monde qui est venu, c'était sympa. Merci à tous ceux qui ont invité des amis, des non-croyants. Et moi, j'étais vraiment touché par une conversation que j'ai eue avec un jeune qui a 7 ans, qui est en cours primaire, en CP. Mais sa maman m'avait dit, ça serait bien si tu pouvais lui parler parce qu'il a des questions sur Dieu. Et il jouait au baby-foot avec un copain, et quand il a su que j'étais prêt à lui parler, il a tout laissé tomber et il est venu avec moi. Et on a discuté un bon moment. Et sa maman était pas très loin de nous, elle écoutait la conversation sans vraiment participer. Mais j'étais vraiment béni par l'ouverture d'esprit de ce petit garçon qui a commencé par me poser quelques questions. Mais est-ce que Dieu est vraiment puissant? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et puis, on dit des fois que Dieu parle, mais moi je ne l'ai jamais entendu. Comment est-ce qu'on peut entendre Dieu? Et j'étais vraiment ravi d'être mis un peu au défi par ces genres de questions toutes simples et pourtant très puissantes. Et je lui ai dit, tu sais, Dieu te fait un don de pouvoir te poser des questions. La plupart des gens autour de nous ne se posent pas ces questions. Soit parce qu'ils ne prennent pas le temps, soit parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps, soit parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Il a apprécié la conversation. Je crois que sa maman m'a promis qu'ils viendront. Et ce sont les questions essentielles que malheureusement, même nous ne prenons pas le temps de nous poser. Parce qu'il y a des impôts à payer, il y a du travail à faire, il y a des courses, du ravitaillement à assurer, il y a les réunions avec les parents d'élèves, il y a tout un tas de choses. Et notre passage, ce livre que nous lisons en ce moment, l'Ecclésiaste, fait partie de ces textes où l'homme est amené à se poser des questions sérieuses sur la vie. On a commencé donc la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver le message en ligne sur le blog de l'Église. Il suffit de taper Calvary Chapelle Nice et vous pouvez retrouver sur Google et vous retrouverez les messages. Ou sur Facebook, Calvary Chapelle Nice aussi. Cet homme qui est l'Ecclésiaste, son nom vient du latin. Le nom à l'origine en hébreu, c'est le prédicateur, le coélète, celui qui parle à une assemblée. Et l'assemblée, c'est le mot église, ecclésia, qui a donné le mot ecclésiaste, celui qui s'adresse à l'église. On a expliqué qu'on a toutes les raisons de penser qu'il s'agit du roi Salomon, le fils de David, qui a peut-être été l'homme le plus beau, le plus riche, le plus puissant, l'homme qui avait tout ce qu'il voulait. Heureusement, à l'époque, on ne célébrait pas Noël encore, parce qu'il aurait été difficile, si on était tombé sur son nom, de lui trouver un cadeau qui l'aurait impressionné. Il pouvait se payer tout ce qu'il voulait, il s'est payé tout ce qu'il a voulu, mais Vous vous souvenez, c'était lui à qui Dieu avait donné la sagesse. La sagesse pratique, pas une sagesse nécessairement spirituelle, parce qu'on sait que le reste, il a bien commencé, mais à la fin de sa vie, il a fait le fou. Il a joué l'insensé. Et cet homme, qui a eu accès à tout, en fait, quand il réfléchit à la vie, quand il réfléchit à son existence, il trouve que c'est vide, c'est bien décevant, c'est bien décourageant. Et il a des expressions qu'il utilise dans ce texte qui vont revenir souvent. Mais il a un mot qu'il utilise, qu'il appelle la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, dit cet homme. Vanité, c'est le mot qui peut désigner un souffle d'air ou qui peut désigner vraiment quelque chose de futile, quelque chose qui ne sert à rien en fin de compte. On va voir dans ce texte un exemple de littérature du Moyen-Orient qui est des fois difficile pour nous, les Occidentaux, qui avons été habitués à raisonner de façon linéaire grâce à un dénommé René Descartes, si c'est bien son prénom, qui fait qu'on a un plan. Quand on développe une idée, on a un premier point, un deuxième point, un troisième point. Je pense que, malheureusement, je n'ai pas de prof de français pour me le confirmer aujourd'hui, qu'on nous apprend à raisonner avec une thèse, une antithèse et une synthèse, mais avec des points bien, bien définis, une logique qui se voudrait imparable, même bien, si bien souvent elle ne l'est pas du tout. Mais ça s'oppose au raisonnement qui se pratique toujours aujourd'hui encore au Moyen-Orient, où on a un raisonnement, ce qu'on appelle des fois circulaire, c'est-à-dire que ça se rapporte en fait plus à la façon dont les gens communiquent entre eux. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne leur dites pas « point numéro 1, je vais à la plage »,« point numéro 1A », j'amène à boire, est-ce que tu veux amener à manger? On discute et on va amener le sujet, puis on va revenir sur le sujet. Et là, on va voir aussi que l'ecclésiaste, le coélète, le prédicateur, le prêcheur, il aborde des sujets et puis il va y revenir. Et donc, c'est des fois difficile d'essayer à la façon occidentale de faire un plan très très carré avec des points, des sous-points, des conclusions, etc. Mais ça n'empêche pas que ce qu'il a à nous dire est vital, ce qu'il a à nous dire est, nous interpelle vraiment. Il nous dit en fin de compte, sa thèse, c'est que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh ! Et c'est du moins ainsi qu'il commence. Il prend ce parti pris et il va montrer que, par bien des égards, si on voit ce qui se passe sous le soleil, la vie, elle est un peu futile. On peut se donner beaucoup de mal. On peut faire beaucoup d'efforts et puis on meurt. Il y a des répétitions dans la vie, il y a des cycles. Alors on peut se dire, bon, ben on va faire un tour de manège. C'est toujours drôle de faire un tour de manège. Mais si on prend une vue plus globale, on se dit, mais qu'est-ce que je suis allé faire sur ce manège? À quoi bon? Une expression que j'ai déjà mentionnée, il parle de ce qui se passe sous le soleil. Alors ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est seulement vrai dans une journée comme aujourd'hui, quand l'été est arrivé, qu'on crève de chaud sous le soleil, exactement. Pas n'importe où, exactement, non. Sous le soleil, ça veut simplement dire ici-bas. Parce qu'il y a le soleil et en dessous, c'est la terre. C'est la vie des hommes, des humains. Et c'est vrai que il va contraster cette vision sous le soleil avec la vision au-dessus du soleil. La vision au-dessus du soleil, c'est la vision qui prend Dieu en compte. Mais d'une façon importante, d'une façon où Dieu, non seulement il est reconnu comme existant, mais on reconnaît qu'il a une importance dans notre vie. Et que notre vie, elle doit être vécue sous son regard. On peut se contenter de vivre notre vie sous le soleil. On sera beau et bronzé, on aura peut-être des maladies de peau. Ou bien on peut vivre notre vie sous le regard de Dieu. Et ça veut dire qu'à chaque moment, chaque instant, il entre dans nos pensées et notre vie, elle est faite sous son regard, avec le désir de lui plaire, avec le désir de se conformer au projet qu'il a formé pour nous de toute éternité. Et au fur et à mesure que je vous parle, j'ai encore l'écho de cette conversation avec ce jeune de 7 ans qui voulait savoir si Dieu le connaissait. Puis je lui ai dit, avant même que tu n'existes, Dieu te connaissait déjà. Et ce qui était remarquable aussi, c'est qu'il avait, la fraîcheur des réactions d'un enfant. « Waouh ! C'est pas possible !» J'ai dit, mais c'est ce que la parole nous dit. Et avant même que vous n'existiez, Dieu avait déjà des projets pour votre vie. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait après. Et je lui ai dit, parce que Dieu te connaît, il va te préparer un futur qui va te plaire. Et là, on est parti sur le fait que lui, il voulait un château, mais qu'il voulait qu'il y ait encore des méchants pour pouvoir se battre contre eux. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est fatigant à la fin de se battre contre les méchants. Et Dieu, il a prévu quelque chose où on n'aura plus à se battre. Les combats sont derrière nous. Mais rassure-toi, ce qu'il a préparé, ça va te plaire. Et pour revenir donc à cet ecclésiaste, à cet homme qui se dit qu'en fait, il a d'abord cherché, on a vu au premier chapitre, il a d'abord cherché la sagesse. La sagesse, faire les choses en fonction de connaissances pour obtenir des buts. Mais il avait remarqué dans la nature que tout se répète, qu'il y a beaucoup de vanité, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. On a en nous cette soif de nouveauté. On aime ce qui est neuf. C'est le moteur de notre économie. Je trouve que la 4 chevaux, c'était une belle petite voiture. Mais si on en était resté à la 4 chevaux, il n'y aurait pas eu les 30 glorieuses. Il n'y aurait pas eu le boom économique. Quand j'étais étudiant, on avait des fois des jeux qui consistaient à gérer des entreprises. Et je me souviens, à l'époque, on nous avait donné à gérer, alors c'était fait par ordinateur, des gros ordinateurs à l'époque, et donc on nous donnait des éléments, et il fallait essayer de faire des profits, de dépenser, d'essayer de trouver des nouveaux produits. À l'époque, je me date, mais on avait mis en place des... On pouvait commencer à s'acheter des téléviseurs couleur, en couleur. Avant, c'était tout en noir et blanc, ou en sépia. Et je me souviens, il y avait même un moment, mon père en avait acheté un, il avait trouvé que c'était pas mal. Pour faire croire qu'on avait une télévision en couleur, on pouvait acheter un morceau de plastique. Le bas était des couleurs brunes, et puis vert, et puis le haut était bleu. Donc si on avait une image d'un paysage, on aurait pu croire un petit peu qu'on avait des couleurs. Ça, c'était nouveau, c'était formidable. Et puis on a eu la télévision en couleur. Je me souviens, j'avais lu, quand j'étais plus jeune encore, que la reine d'Angleterre avait un téléviseur en couleur. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'émission de télé en couleur. Elle pouvait voir des films en couleur. Mais c'était quelque chose d'incroyable à l'époque. Et donc, dans ce jeu de rôle, dans ce jeu d'entreprise, il fallait essayer de trouver des innovations techniques. Ça, c'était avant qu'il y ait des ordinateurs, des mini-ordinateurs, des PC. C'était avant qu'il y ait des smartphones. C'était avant qu'il y ait des écrans plats. C'était encore les gros écrans comme ça. Il fallait 4 personnes pour le mettre sur une table à roulettes. Et je ne pouvais pas imaginer, j'aurais jamais pu imaginer, même à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les futuristes. Il y avait des gens qui se spécialisaient dans l'idée d'avoir des idées folles sur le futur. Et même eux étaient bien loin du compte. Mais en nous, il y a ce désir de nouveauté, ce désir de quelque chose de neuf. On a vu aussi qu'il avait cherché, il s'était dit, je vais explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. Et puis il avait constaté que plus on avançait dans les sciences et plus on était tracassé, plus on avait de questions. Et c'est vrai que bien souvent les découvertes scientifiques, ça amène de nouvelles questions et qu'on n'arrive jamais à la fin de ces questions. Et là on va voir, il va chercher un sens à la vie dans la recherche des plaisirs et puis dans la recherche du travail bien fait, des accomplissements, des réalisations. Et on va voir qu'il réalise que c'est toujours futile. On va lire ensemble le chapitre 2, ou du moins on va commencer, les versets 1 à 11. Et je vous invite vraiment à recevoir ce texte comme Dieu qui vous parle. Ce que je peux vous dire, c'est des commentaires, c'est faire des remarques, mais c'est ce texte qui doit vous interpeller, qui doit vous scotcher, qui doit vous parler. Verset 1 du chapitre 2, c'est page 655, si vous avez une Bible à la colombe. J'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence et de la joie, que vient-elle faire? Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, et j'ai eu leur fils né dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand, et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Puis j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire, et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Arrêtons-nous un moment. Il y a une chanson qui a été écrite entre la période des deux guerres, en 1937. Chanson qui a été interprétée par des personnes comme Charles Trenet à l'époque, comme Patrick Bruel plus récemment. Cette chanson, elle disait: qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue, etc., etc. Je vous épargne l'Eurovision. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Alors la chanson se veut très, très positive. La radio qui chante un petit air radieux, lever la tête, les amoureux, il y a toutes les raisons, d'après cette chanson, d'être heureux. Mais le titre lui-même nous parle. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ça veut dire qu'on ne l'est pas encore. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être heureux? Quelle est la chose qui vous manque aujourd'hui pour être heureux? Est-ce que c'est ce diplôme, ce doctorat, suivi d'un ou deux diplômes d'études supérieures? C'est ce boulot qui paye bien, qui est passionnant? C'est cette personne avec qui vous allez pouvoir partager votre vie? C'est cette forme physique à laquelle vous aspirez? Je serai heureux quand j'aurai perdu 10 kilos. Je serai heureux quand je posséderai enfin cette villa avec un grand jardin et une belle piscine. Je serai heureux quand j'aurai plus à suivre mon compte en banque journellement pour voir si je ne suis pas à découvert. Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour être heureux? Qu'est-ce que vous attendez pour être heureux? C'est la question à laquelle on répond bien souvent en disant, notre société est particulièrement axée là-dessus, ce qui nous manque, c'est davantage d'argent, davantage de possessions, davantage de réussite, davantage, toujours plus, et surtout davantage de plaisir. Notre société elle a la maladie du plaisir. On cherche toujours les plaisirs. Alors il y a Des fois, on pense que le mot plaisir, c'est un mot qui n'est pas, qui ne doit pas se trouver dans la bouche d'un chrétien, qu'un chrétien, ça doit être tout triste. On dit que certains ont été baptisés dans du citron. Il faut tirer la tête, il ne faut jamais sourire, il ne faut jamais rire, pas avoir d'humour. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Jésus est connu pour avoir été un homme de douleur, mais c'était aussi l'homme le plus heureux qui ait jamais existé. Il avait de l'humour. Quand il disait qu'il valait mieux avoir une planche, ou plutôt qu'il y en avait qui se promenaient avec une planche dans l'œil, une grosse poutre dans la tête, et qui allaient voir leur voisin qui avait lui un petit cure-dent dans l'œil, et qui se moquaient de lui, c'était de l'humour. Il savait rire, il savait faire la fête. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il faisait la fête, il était connu pour ça. On disait qu'il fréquentait ceux qui se saoulaient. Mais notre société, c'est une société de loisirs. Les 35 heures, la RTT, les week-ends, les ponts, les viaducs de mai, les vacances des enfants, les vacances des parents. C'est comme si la vie était vécue pour ces moments de vacances. Alors on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les Français travaillent pour pouvoir prendre des vacances, mais que d'autres peuples, comme les Allemands, prennent des vacances pour pouvoir mieux travailler. C'est peut-être en train de changer avec les compagnies low cost qui fait qu'on peut venir passer un week-end au bout de l'Europe, des fois au bout du monde. Alors on cherche les plaisirs. Alors les plaisirs, ça peut être justement la recherche de comédiens. La vie est triste, mais il y a plein de menaces. Mais on va écouter Gad Elmaleh, et pendant ce temps-là, on rigole, on oublie tout. Il n'y a rien de mal à ça, encore une fois. La Bible n'est pas anti-plaisir. Ce qui est grave, c'est lorsque ça devient le moteur de notre existence. Alors il s'est tout offert, il avait tous les moyens, et Dieu l'a pris comme exemple parce qu'il a été l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus puissant du monde. Son père, David, avait bataillé pendant 40 ans. Lui, il avait maintenant la paix, il avait des nations qui lui payaient des impôts. Le monde autour de lui était en paix, il pouvait se concentrer sur tous ses plaisirs. Il pouvait boire le meilleur des vins. Et puis s'il trouvait que le vin n'était pas bon, il pouvait s'acheter des vignobles et se faire du vin. Il s'est bâti des maisons, il s'est planté des vignobles, verset 4. Je me suis fait des jardins et des parcs. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Nous, on est contents quand c'est l'été, parce que les fruits d'été, c'est maintenant et pas après. Moi, je dois dire, une grande joie en été, c'est de pouvoir trouver des nectarines qui ont un bon goût, qui sont juste croquantes comme il faut à mon goût. Ça fait partie des joies. Lui, s'il ne trouvait pas les nectarines chez Leader Price comme il fallait, il se plantait des jardins et se faisait pousser des nectarines. Ou les fruits qu'il voulait. Il s'est fait construire des jardins et des parcs. C'est joli, un jardin. On a commencé notre existence dans un jardin avec Dieu, l'humanité. Et quelque chose de très satisfaisant, de très apaisant. de voir des plantes qui poussent. Et on est dans une région, on est assez gâté pour ça. Si vous aimez les plantes, vous pouvez aller visiter des tas de parcs, jardins botaniques, de parcs, ou faire pousser sur votre balcon des jolies fleurs. Il s'est fait des bassins pour arroser ces jardins. Il a même fait pousser des forêts de jeunes arbres. C'est intéressant parce que quand on parle de cette splendeur royale, en France, on peut penser à un roi qui ne s'est rien refusé non plus, c'était le roi Louis XIV, le roi Soleil, qui était dans l'illusion qu'il était l'État, que lui seul résumait tout le gouvernement, toute la France de l'époque, qu'il était roi de droit divin. C'était Dieu, la volonté de Dieu qui soit roi. Et cet homme, il s'est fait construire aussi des palais, Versailles. Il a planté des jardins. Il a planté des forêts. Le reste qu'on va lire aussi, il se l'est offert. Et je ne sais pas si vous avez étudié en littérature un dénommé Bossuet. C'était un ecclésiastique à la cour du roi. C'est aussi un auteur qui écrivait des sermons et qui, à l'occasion d'un décès, avait prononcé un discours basé sur ce texte. Notre histoire de France, elle est ancrée dans la Bible. Ne vous laissez pas dire autre chose. Ne croyez pas que toutes les réalisations en France ont été faites indépendamment d'une foi en Dieu qui était ancrée dans la Bible. Et c'est vrai pour toute l'Europe. Même si aujourd'hui, au nom de la pensée dominante, du bien-penser, on veut gommer toute référence à l'histoire chrétienne de notre Europe. C'est vrai qu'il y a eu des influences musulmanes, de l'islam, qui est une culture aussi très riche, mais de vouloir faire table rase aujourd'hui, c'est complètement ridicule, parce que ça ne correspond pas du tout à pourquoi nous sommes comme nous sommes. Mais là, on veut pas déraper dans un discours politique. Ce que je veux simplement dire, c'est que Bossuet, on l'appelait l'aigle de Meaux. Meaux, là je vais encore parler politique, dont le maire est un certain Jean-François Copé, c'est pas lui l'aigle, c'était Bossuet l'aigle de Meaux, et il avait M-E-A-U-X, mais il savait manier les mots, et il avait fait un sermon qui était intitulé « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et il avait prononcé ce discours en face de l'exemple même de ce successeur de Salomon qui était le roi Louis XIV. Il avait du courage, mais ça avait frappé la cour et ça avait frappé le roi aussi. C'est bon de se laisser interpeller par la parole, c'est ce qui manque dans notre société. On a composé les droits de l'homme et maintenant c'est devenu notre Bible. Les droits de l'homme qui, soit dit entre parenthèses, ont été inspirés par les valeurs judéo-chrétiennes. Oh, il a prononcé le mot. Scandale ! Il pouvait se payer tout ce qu'il voulait, notre roi Salomon. Louis XIV a pensé qu'il pouvait en faire autant. Verset 7, il s'était acquis des esclaves, hommes et femmes, et leurs enfants, leurs fils nés dans la maison. Il était grand propriétaire de gros, de petits bétail, plus de tout ce qui était avant. Il était le top du top. Et puis, il s'était amassé de l'argent, de l'or, qui venait des rois, des provinces qui étaient dominées par le royaume d'Israël. Il s'était procuré des chanteurs et des chanteuses. Nous, on se dit aujourd'hui, moi j'ai mon MP3. Ouais. Lui, il faisait venir les chanteurs et les chanteuses et les musiciens dans sa boîte, et puis il écoutait. Et puis, raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Les plaisirs des relations sexuelles. Alors, il savait de quoi il parlait. On apprend par ailleurs qu'il avait 700 femmes. Alors, on dit que c'était seulement des fois juste pour sceller des alliances. Mais, il n'empêche, elles étaient leurs époux. Elles étaient ses épouses. Et comme si 700, ça ne suffisait pas pour faire un compte rond, il avait 300 concubines. Donc, quand il disait qu'il s'était offert des femmes, des dames, en grand nombre, littéralement, c'est une dame et des dames, pour dire autant que je voulais. Et puis il était surpris, verset 9, « Je suis devenu grand, j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. » Il gardait encore une grande sagesse pratique. On a vu que c'était une sagesse sous le soleil, ce n'était pas une sagesse spirituelle vis-à-vis de Dieu. On va voir petit à petit y parvenir. « Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les ai pas privés. » Aujourd'hui, on a Internet. On peut voir des millions, des milliards d'images. Tout ce que vous voulez. Des fois, c'est bien, des fois, ça peut être très mal. Quand j'étais enfant et qu'on voulait voir des photos pornographiques, il fallait prendre son courage à deux mains et aller demander à l'épicière ce magazine, s'il vous plaît, tout rougissant. Maintenant, n'importe quel enfant peut se forger une idée complètement fausse et perverse de la sexualité humaine, qui, soit dit en passant, est aussi un cadeau de Dieu. C'est Dieu, c'est son idée, et c'est une belle chose quand c'est exercé, pas sous le soleil, mais sous les yeux de Dieu, dans le cadre du mariage. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur. Et mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Alors c'était tout ce travail pour organiser ses loisirs, organiser ses plaisirs, organiser, il fallait un ministère de la culture pour pouvoir organiser tous les amusements de ce roi. Verset 11, il réfléchit encore qu'une fois que c'est passé, il reste le vide si Dieu n'est pas dans l'équation. J'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire. On se donne du mal des fois pour organiser ses vacances. On se donne du mal pour construire cette belle et grande villa. On se donne du mal pour obtenir nos plaisirs. Puis une fois qu'ils sont passés, une fois qu'on est malade, qu'on est veuf, qu'on doit quitter la villa, qu'on se retrouve en maison de retraite, on réalise qu'en fait, l'énergie qu'on a dépensée, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qu'est-ce qu'il en reste ? Que reste-t-il de nos amours, comme le chantait Traîné ? Alors, verset 12, il a essayé de changer d'optique. Alors, j'ai envisagé, lisons ensemble, j'ai envisagé de voir la sagesse ainsi que la démence et la folie. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi ? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu ceci, il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie, comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous deux. J'ai dit à mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra moi aussi. Pourquoi donc aurais-je été plus sage? Et j'ai déclaré à mon cœur que c'est encore là une vanité. Car le sage ne laisse point de souvenirs perpétuels, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien comme l'insensé. J'ai donc haï la vie, car pour moi l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est mauvais, puisque tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï toute la peine que je me donne sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Pourtant, il sera maître de toute la peine que je me suis donnée en usant de sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à me décourager de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Y a-t-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès? Voilà que sa part est donnée à un homme qui n'y a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de toute la peine et de la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil? Tous ses jours ne sont que tourments. Ses soucis le tracassent. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire, de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir sauf moi? Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie, mais au pécheur il donne le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Il essaye de continuer à se dire si ce n'est pas dans le divertissement, dans les plaisirs de la vie que l'homme peut trouver un sens à la vie. Peut-être c'est en se donnant de la peine au travail. À partir du verset 18, il dit qu'il s'est donné beaucoup de peine. Il y a la vanité des recherches du plaisir, et puis il s'est dit, en fait, c'est vrai que ce qui donne de la joie aussi, c'est le travail bien fait. C'est de réaliser des choses. Dieu nous a ainsi créés que c'est vrai que nous aimons pouvoir regarder l'œuvre de nos mains, voir ce qu'on a fait avec notre temps, avec nos ressources, notre vie. Mais il y a une idée qui le déprime, c'est qu'en fait, il y a une terrible égalité devant la mort. Vous vivez n'importe comment pour la recherche du plaisir immédiat, ou vous vivez en vous fixant des buts, en travaillant dur, en acquérant des diplômes, des expériences de travail, de l'influence, en faisant des découvertes, et puis vous mourrez sous le soleil, exactement. Alors ça, c'est une idée déprimante de se dire qu'après tout, même si on essaye de réfléchir et d'être un peu moins bête que le voisin, d'utiliser la sagesse pratique que Dieu lui avait donnée, on meurt. si on meurt sous le soleil, sans avoir de dimension au-dessus du soleil, alors on se dit, oui, on peut faire un tour de manège, mais ce n'est pas bien satisfaisant. Ce qui est curieux et qui devrait nous interpeller, que je vous invite à utiliser lorsque vous parlez à des gens de votre foi en Dieu, d'une vie après la mort, et on y reviendra dans le livre de l'Ecclésiaste de façon très pertinente et très précise. Pourquoi est-ce que ça nous gêne de mourir et de rien laisser après nous? Première expérience de la mort, c'était mon poisson rouge. J'avais retrouvé un matin en haut du bocal, le ventre en haut, il était mort. Mais le poisson rouge, je ne pense pas qu'il s'était posé des questions en se disant à quoi bon vivre dans un bocal rond? Certains vivent dans un bocal rectangulaire. Mais à la fin, on meurt, c'est triste. Il avait vécu ses jours en espérant qu'on lui changerait de temps en temps son lot, qu'on lui donnerait des daphnies. Et puis, c'est fini. Mais si ça nous gêne de penser que on vit comme ça, on se donne du mal et qu'au bout du compte, il n'y a plus rien qui reste, il n'y a plus rien qui demeure, il n'y a plus de permanence, il n'y a plus de pérennité. C'est parce que Dieu a mis ça dans nos cœurs. Nous avons été créés pour aspirer à quelque chose au-dessus du soleil. On peut faire l'impasse, on peut se dire « je ne me pose pas des questions trop compliquées ». Moi, je profite de la vie. Mais il n'empêche, l'idée de mourir et de tout laisser, ça nous gêne. Et une autre idée qui gênait le roi Salomon, le Qohélète, le prédicateur, le prêcheur, qui prêchait sur le sens de la vie, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'était de se dire, waouh, j'ai un super compte en banque, j'ai des palais, j'ai des villas, des maisons, des piscines, des chanteurs. Je peux organiser le prix de l'Israël Vision. Et c'est toujours moi qui gagne. Je peux tout m'offrir. J'ai plein de choses. Des troupeaux, des voitures, des carrosses, des avions, des jets, des tout. Mais qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Qui c'est qui va avoir tout ça? On dit que la fortune de Bill Gates, qui se fait discret, qui n'est plus peut-être l'homme le plus riche, je ne sais pas, ça varie suivant les cours du dollar, etc. Mais on dit qu'il a assez d'argent pour acheter toutes les maisons qui se trouvent à Boston. Une maison à Boston, ça coûte un demi-million de dollars. Mais il a tellement de milliards de dollars qu'il pourrait acheter toute la ville. Et la question, c'est qui c'est qui va avoir tout ça quand il meurt? Et là, il se dit, j'ai fait tout ça, j'ai fait tous ces efforts, j'ai utilisé la sagesse humaine, la sagesse pratique que Dieu m'avait donnée. J'ai bénéficié de certaines choses, la paix que mon père avait conquis durement pendant 40 ans. Je reçois tout cet argent, tout cet or. Et puis il se dit, et c'est un héritier qui va recevoir tout ça. Je ne sais même pas s'il va être très malin. Et en fait, c'est intéressant qu'avec 1700 femmes et 300 concubines, on ne connaît qu'un seul garçon du roi Salomon. c'était le roi Réhoboam. Le roi Réhoboam qui, face à la contestation qui se faisait parce que les gens étaient taxés lourdement pour assurer ce train de vie, a décidé d'utiliser la rigueur. Il envoyait les CRS. Résultat des courses, il y a une division du royaume. Donc, l'enfant qui a suivi, qui a hérité de tout ça, il a été un imbécile. Il a pensé qu'il méritait ces choses-là, il a cru que ça lui était dû. Et on le voit aujourd'hui encore, il y a des fois des personnes, des jeunes, qui héritent de la fortune formidable d'un Bill Gates, c'est pas encore le cas, mais d'industriels, et généralement, ces jeunes, ce sont ceux qui flambent dans les boîtes de nuit, qui font la jet set. Ils n'ont jamais rien fichu de leurs deux doigts, de leurs deux mains, mais ils se sont trouvés naître dans une famille riche. Et ils héritent de toute cette richesse. Et Salomon, qui avait tellement travaillé, qui avait tellement fait d'efforts pour toutes ces choses, gérer tout ça, imaginer. Des fois, on dit, ah, si seulement je pouvais être plus riche. Si seulement je pouvais avoir des millions, des milliards d'euros. Bienvenue la gestion. Bienvenue les conseillers qui vont trier. Bienvenue les luttes de clans. Si j'avais la fortune de L'Oréal. Bienvenue les procès. Bienvenue les soucis. Et cet homme, il se dit, en fait, quoi qu'on fasse, on cherche les plaisirs, on cherche à faire des choses belles par le travail, on se retrouve à mourir. Quelle vanité sous le soleil. Et puis, on ne sait même pas à qui tout ça va revenir. Alors, on vit dans une société, généralement, je m'adresse à des gens, je ne crois pas que ce soit tellement un problème, mais pourtant, il suffit même des fois d'avoir un petit appartement et on voit les enfants qui se déchirent pour l'héritage. L'os n'a pas besoin d'être bien gros pour que les chiens se le disputent, parce que c'est notre vieille nature humaine de pêcheur qui veut toujours plus que l'autre, notre égoïsme. C'est pas très réjouissant, hein, tout ce qu'on dit aujourd'hui. Alors après, vous irez vous amuser à la plage. Mais laissez ces pensées vous travailler. Pas pour vous déprimer, mais pour vous dire qu'en fait, il faut regarder au-delà du soleil. Notre vie, elle n'est pas faite pour être vécue juste sous le soleil. Elle est faite pour être vécue sous le regard de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de croire à Dieu, la question c'est, est-ce que Dieu compte pour vous vraiment? Est-ce que quand vous avez des décisions à prendre, vous demandez le conseil à Dieu? Alors comme ce petit garçon, vous direz, mais j'ai jamais entendu Dieu me parler. Mais je lui disais, tu vois dans cette salle, tu entends le chinois? Le chinois? Il y a quelqu'un qui est chinois? J'ai dit non, mais si j'avais la radio branchée en FM ou en onde courte, je pourrais te faire entendre du chinois ou je peux te faire entendre Internet avec le Wi-Fi. Tu vois pas Wi-Fi? Et pourtant là, on baigne dans le Wi-Fi là. Vous avez pris un bain de Wi-Fi aujourd'hui. On espère que c'est pas trop nocif, mais ça on n'en est pas sûr, on le saura dans 50 ans. Là il sera trop tard pour revenir en arrière, mais on baigne dans le Wi-Fi, on baigne dans des choses qu'on ne voit pas, et pourtant Dieu nous parle. Et pour savoir qu'il y a du Wi-Fi, il faut votre smartphone ou votre tablette. Pour savoir qu'on parle chinois dans cette pièce, il faut qu'il y ait un récepteur branché sur la bonne longueur d'onde. Et je lui disais, il faut que toi tu te branches sur la bonne longueur d'onde de Dieu. Tu lui parles, tu pries, mais tu le laisses te parler. Alors il ne va pas te parler en disant,
Oui, il faut que tu fasses ceci, ou il faut que tu donnes un coup de main à cet ami.
Mais il va te mettre des choses dans ton cœur. Il va te parler. Si tu fais silence et si tu le laisses t'adresser dans la paix, dans du cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, il y a beaucoup de fausses religions, des sectes qui vont prendre des passages de ce livre et d'autres livres. Mais l'Ecclésiaste est particulièrement propice parce que il donne une vision si négative de ce qu'est la vie sous le soleil. Et les gens qui ne prennent pas la peine de lire tout le livre ou d'étudier tout le livre, de voir que sous le soleil, ça veut dire une vie vécue sans pensée, sans égard pour Dieu, ils peuvent dire, oui, ça ne sert à rien de travailler, tu peux aller faire la fête, parce qu'à la fin, tout le monde meurt. Alors, c'est pas du tout là où veut en venir le Qohélète, l'Ecclésiaste. Il veut nous montrer que sans Dieu, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais avec Dieu, elle prend toute sa valeur, elle prend toutes les raisons, elle a toute raison d'être vécue. Elle est belle, elle est riche, elle est pleine d'espoir, d'amour, de soleil, de joie. Il veut convaincre ses auditeurs, ses lecteurs. Il va le faire de façon définitive. Encore une fois, il va falloir attendre un peu. Mais c'est bien vous déprimer sous le soleil et puis voir enfin la lumière de Dieu à la fin. De voir que la vie, elle est belle, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on doit respecter. C'est quelque chose qu'on doit préserver. Amen, j'ai entendu un amen derrière moi. La vie est trop complexe, la vie est trop riche, la vie est trop belle pour être saccagée. Pour qu'il y ait des assassinats, pour qu'il y ait des guerres, pour qu'il y ait des avortements, pour qu'il y ait des choses. La vie est une chose créée par Dieu. Et si on pense un tant soit peu, on sait que ce n'est pas là par hasard. Nous sommes des êtres tellement complexes. La science, la recherche n'en finissent pas d'explorer, de trouver des choses. Et ce qui est intéressant, et vous allez le remarquer à plusieurs fois, c'est qu'il a la réponse. Et il ne peut pas s'empêcher de la laisser transparaître un peu. Et c'est à partir du verset 24, il évoque la main de Dieu. Il réalise qu'en fait, Dieu donne un sens à la vie et qu'on peut, être plein de joie lorsqu'on les plaisirs simples de la vie, Dieu nous les donne pour que nous les recevions et que nous en fassions l'expérience. Le plaisir, c'est pas quelque chose que Dieu ne veut pas nous donner. Dieu n'est pas un père fouettard qui attend qu'on fasse la première bêtise. Dieu nous donne plein de bonnes choses, des plaisirs légitimes. Et c'est déjà une belle façon de vivre que de recevoir ces dons de Dieu. À l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Par contre, à celui qui l'ignore, le pécheur, l'insensé, il continue de donner le souci de recueillir et d'amasser toujours davantage, toujours plus. Mais celui qui est agréable à Dieu, celui qui pense à Dieu, qui ne vit pas seulement sous le soleil, il peut sous le soleil déjà vivre une vie abondante, riche et abondante. C'était intéressant, la maman, lorsque je parlais avec son fils, je disais qu'en fait, il y a une vie après la mort. Et j'utilisais, ça l'a vraiment interpellé, c'était l'histoire des deux jumeaux dans le ventre de leur maman qui se demandent s'il y a une vie après la naissance. Il y en a un qui est incroyant, il dit non, tout est ici, ça se passe tout dans le ventre de, dans ce ventre, dans ce placenta. Ceux qui racontent des histoires, c'est ceux qui rêvent, ils cherchent des béquilles pour vivre, pour assurer leur existence dans le placenta. Et puis il y a l'autre jumeau, il est croyant, il dit non, non, moi je suis persuadé qu'il y a une vie après la naissance. Oh, c'est des histoires, et tu crois peut-être aussi à maman pendant que tu y es. Tu crois que maman, elle existe? Il me dit, bien sûr. Et comment tu peux savoir que maman, elle existe? Ça, c'est un truc pour les faibles de dire qu'on est là, mais qu'il y a une maman qui nous aime. Et l'autre petit dit, non, en fait, je sais qu'elle est là. J'entends sa voix. Il y a même des fois où elle chante pour moi. Et il y a même des fois où je sens sa main qui me caresse. Mes frères et sœurs, la vie, c'est ici-bas, mais il y a aussi toute une vie après la naissance à la vie éternelle. Alors la maman, je disais, elle voyait que je parlais de la vie éternelle, du futur après la mort, elle était un peu inquiète, elle a dit, oui, mais il faut, elle disait à son fils, il faut que tu travailles aussi, que tu vives ici-bas. J'ai dit, mais on est bien d'accord, la vie qui est éternelle, elle commence déjà ici. Et d'avoir des convictions, de savoir la vérité, de connaître Dieu déjà, ça donne une vie riche et abondante ici-bas. Mais le petit, je crois qu'il va utiliser cette idée de parler à ses copains de ces deux jumeaux qui parlaient, est-ce qu'il y a une vie après la naissance? Et je vous invite à faire de même lorsque vous parlez avec des gens. Utilisez ça pour montrer la stupidité de penser que tout finit à la mort et qu'autant se tirer une balle dans la tête, autant ne pas croire au futur. Et on verra, il a déjà la solution, il peut pas, il aimerait ne rien dire sur Dieu, mais il ne peut pas s'empêcher. Que ce soit notre position lorsque nous parlons autour de nous à des gens qui n'ont pas cet espoir, qui sont seulement sous le soleil. Amen. Prions. Seigneur, merci de nous permettre de réfléchir à ces choses que généralement nous ignorons par choix, par divertissement, par manque de temps, par mauvaise priorité. Seigneur, donne-nous de vivre pour toi dès ici-bas, Seigneur, de connaître la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur. Nous sommes là pour ta gloire. Nous sommes là pour reconnaître que c'est toi qui nous a donné la vie. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ce don de la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est qui est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, il y en a peut-être parmi nous qui n'ont pas encore confié leur vie à toi, qui ne vivent encore que sous le soleil et qui trouvent la vie difficile. Seigneur, ce n'est pas pour s'échapper qu'on croit en toi, c'est parce que c'est la réalité. Si c'est votre cas, si vous voulez venir à Dieu et faire votre coming out, réaliser qu'en fait vous croyez au fond de vous qu'il y a quelque chose après la mort et qu'il y a un Dieu qui vous aime, qu'il est venu mourir pour vos péchés et qu'il vous donne d'entrer dans cette vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez prier en silence après moi. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Laissé à moi-même, je ne vis que pour moi-même, Seigneur. Et c'est le péché le plus fort, l'égoïsme. Seigneur, je te demande de me pardonner. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour tous mes péchés, passés, présents, futurs, que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui. Et je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je veux faire silence pour t'écouter, me parler. Viens dans ma vie, Seigneur. Je reconnais que je ne peux rien faire pour mériter ton amour, ton pardon, la vie éternelle. Que c'est Jésus qui a tout accompli à la croix et que tu me demandes seulement de croire en ce qu'il a fait. Seigneur, je crois. Viens dans ma vie, Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci d'écouter ma prière. Merci de me pardonner. Merci de me donner le don de la vie éternelle. Amen.